Écoute le Protelcast, pose-toi, prends ton café. On n'est pas des tarés, c'est juste la CGT. Un groupe bien soudé qui a décidé de t'aider. Et si t'es en galère, tu peux nous contacter. N'hésite pas, fais-le avant d'être déconnecté.
Bonjour à tous, nous sommes le 4 mars 2026 et nous sommes là pour faire l'enregistrement de notre Protelcast saison 2, épisode 13. Je suis accompagné aujourd'hui de nos meilleurs commentateurs, je ne les présente plus. Bonjour Sylvie.
Bonjour Stéphane, merci pour le compliment et bonjour à tous.
Et nous avons Lionel qui nous accompagne après avoir fait de magnifiques montages. Et bien maintenant, c'est à lui qui lui revient l'enregistrement. Bonjour Lionel.
Salut tout le monde.
On va essayer de faire que ça ne se voit pas trop, qu'on n'est pas trop préparé, puisque vous l'aurez compris, on avait dit on reviendra en janvier. On est effectivement le 4 mars. Alors, ce n'est pas qu'on est très, très mauvais en organisation, c'est qu'on est très chargé en événements et on n'a vraiment plus pris le temps d'enregistrer au fur et à mesure. Donc, si vous voulez, le sommaire est relativement dense pour essayer de rattraper un peu notre retard. Donc, on va aborder dans les grandes lignes tout ce qui concerne le CSE. Donc, on va essayer de revenir sur celui de décembre, de janvier et de février où beaucoup de choses ont été abordées. Alors, d'autres vous intéressent plus que d'autres. D'autres, on n'a pas le droit d'en parler. Donc, bah, du coup, ça va nous arranger. Mais on va essayer de quand même d'apporter tout ça. Donc, on a aussi le gros sujet d'avant Noël qui était tout ce qui va concerner la fusion. Hein. Nos chers dirigeants ont décidé de rassembler les centres d'appel et Protelco au sein d'une même entité. Donc, ça a énormément de conséquences et ça, entre guillemets, demande énormément d'adaptation. Donc, ce qui va en découler certains sujets qui étaient des sujets MCRA, mais qui, du coup, vont concerner maintenant Protelco. Donc, que ce soit de la GEPP, alors on vous expliquera ce que c'est, hein, mais c'est des termes barbares, et tout ce qui est représentation du personnel et syndical au sein de ces entités, une fois qu'ils auront fusionné avec nous. Nous avons eu, parce que bien sûr, on ne nous laisse pas trop tranquille, des négociations au niveau du groupe cette fois-ci, donc au niveau d'Iliad directement. Donc, c'est des sujets qui nous intéressent aussi puisqu'ils s'appliqueront automatiquement à nous dès que ces accords auront une légalité, c'est-à-dire qu'ils auront été signés par une majorité des organisations syndicales représentatives. Donc, ça veut dire qu'on a négocié quelque chose et certains sont en cours, d'autres sont terminés sur tout ce qui va être la qualité de vie au travail et l'égalité homme-femme ou femme-homme pour certains. C'est la mode en ce moment. Donc, pour moi, ça reste des humains. Hein. Tout le monde doit être égal et égaux devant le travail et devant les conditions de travail. Donc, pour moi, ça n'a pas trop de sens de dire que c'est plus un plus que l'autre, puisqu'il y a égalité. Mais on rentre déjà dans le sujet, donc c'est pas très bon, je vais m'arrêter là. Donc, concrètement, c'est des accords qui devront être, une fois signés, appliqués dans toutes les sociétés qui n'ont pas d'accord de ce type dessus, et celles qui en ont déjà une devront faire un choix entre les deux. Donc, dans les deuxièmes négociations qu'on a en cours aussi, nous avons le comité d'entreprise européen. Alors là, on repasse encore un cran, puisque du coup, on va s'occuper de l'ensemble des sociétés européennes du groupe Iliad, donc que ce soit l'Italie ou la Pologne. Donc là, il y a un comité d'entreprise qui est en train d'être négocié, à voir si ça va aboutir, puisque c'est toujours en négociation. Et nous reviendrons sur une actualité brûlante du côté de l'UES Iliad, donc Free Réseau et toutes les entreprises rattachées à l'UES, puisque la négociation de leur protocole d'accord préélectoral est en cours, et donc ça sous-entend qu'ils vont avoir des élections très prochainement chez eux. Donc, comme je sais qu'il y en a de nombreux qui nous écoutent encore, et ben on a décidé de faire un petit sujet sur ce thème pour pouvoir justement qu'ils puissent se rapprocher de nous ou des personnes aux commandes pour pouvoir postuler et devenir des élus pour ce qui concerne l'US Iliad. Donc, par quoi on commence? Je vous écoute parce que là, je parle beaucoup, mais je pense qu'on va commencer par nous, c'est-à-dire le CSE. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bah, c'est très bien, Stéphane, parce qu'effectivement, tu as annoncé un programme chargé. Donc, on va essayer quand même d'être concis pour pas vous saouler et surtout pour que vous arriviez au bout de ce protelcast. On va essayer d'être le plus concis possible. Et effectivement, il se passe plein de choses. Et en même temps, j'ai envie aussi de vous rassurer, on est toujours là pour vous accompagner au quotidien. Et donc, c'est un travail aussi supplémentaire d'être présent pour les moments un petit peu difficiles comme les entretiens préalables à la sanction et enfin les entretiens disciplinaires et puis toutes les questionnements que vous avez au quotidien dans votre vie professionnelle et qui peuvent poser problème. Dès qu'on a les infos, on les remonte aussi à la direction pour essayer de revenir vers vous avec des informations claires et on demande, et juste une petite parenthèse, on demande à ce que une communication soit faite régulière et plus claire vers vous parce que, en tout cas, moi j'ai eu l'expérience ces derniers temps de beaucoup de questionnements de techniciens, entre autres de terrain, ou qui se demandaient, qui se posaient des questions par rapport à des mises en place différentes de d'habitude. Et sur lequel il n'y avait eu aucune information de la direction là-dessus, et que donc il se posait pas mal de questions. Donc voilà, tout ça s'est remonté. Dès que vous avez des problèmes, on les remonte et on essaye que ça se résout le mieux possible. Et donc je vais laisser Stéphane ou Lionel expliquer le programme annoncé.
Allez, on va commencer notre menu avec donc le CSE, comme nous disions tout à l'heure. Première des choses, et pour moi, c'est une des choses les plus importantes qu'on a eu à traiter depuis qu'on est élu, puisque, pour être clair, on arrive maintenant dans le dur au niveau des free proxy, c'est-à-dire qu'on commence à avoir un petit peu d'expérience, un petit peu de pratique, on a de plus en plus de free proxy. Et en tant qu'élu du personnel, on a des prérogatives. Et pour nous, l'une des plus importantes, c'est les risques psychosociaux et les conditions de travail. Et il s'avère que nos camarades qui sont à la commission santé, sécurité et conditions de travail ont eu vent de choses qui n'étaient pas normales et qui ont demandé une action spécifique. Alors, on a malheureusement notre spécialiste dans le domaine qui est encore dans le jet lag suite à ses vacances récentes. Donc, il n'est pas là pour nous en parler directement, mais donc, on est quand même, maintenant qu'on a eu le dossier traité, au courant de quand même des principales choses. Et il a été décidé quand même plusieurs choses. C'est-à-dire que ce qui a été mis en évidence par rapport à une organisation du travail et par rapport à des problématiques, qui malheureusement ne nous ont pas été remontés suffisamment rapidement, et c'est là que toute l'importance et prend son sens notre nouvel outil qui a été mis en place au niveau du CSE, Ma Vie Pro, qui permet de pouvoir faire des remontées directement à vos élus en cas de choses qui vous paraissent ou qui sont, puisque c'est là l'intérêt de l'outil, ça permet de trancher, de savoir si c'est des choses importantes ou pas. Donc concrètement, tout ce qui va être organisation du travail, tout ce qui va être prise de congé, tout ce qui va être tout ce qui vous paraît être non documenté correctement par rapport à ce que vous donnent vos responsables ou tout ce qui vous est donné par vos coordinateurs, eh ben, le mieux, c'est de poser la question si vous ne trouvez pas la réponse dans l'outil qui est mis à disposition, puisque là, on a intégré l'ensemble des accords d'entreprise qui viennent compléter le code du travail et notre convention collective, de façon à essayer d'avoir un maximum de réponses aux questions que vous posez, avec en dernier recours la possibilité de poser votre question et qui arrive à tous les élus du CSE, et ce qui permet d'avoir une réponse tranchée sur des sujets qui sont très spécifiques. Si on prend l'exemple des questions très particulières, par exemple sur l'Alsace-Moselle, eh ben, on a la possibilité d'avoir une réponse précise, pardon, par rapport à ce genre de secteur. Donc, au niveau des conditions de travail et des risques psychosociaux, s'il y a un mal-être, s'il y a quelque chose qui vous semble anormal, n'hésitez pas à utiliser ce nouvel outil qui est à disposition de tous les salariés. Il suffit juste d'installer l'application, vous verrez. Vous avez eu plusieurs relances qui ont été envoyées par mail pour de façon à ce que vous puissiez l'installer et vous inscrire. Et je pense que ce n'est pas un outil de la direction, c'est bien les élus du personnel que vous avez élus qui ont décidé de mettre ça en place. En plus, on se fait assister par un cabinet spécialisé et qui peut nous donner des réponses précises et d'étudier toute demande de façon à ce que si nous n'avons pas les réponses, nous puissions apporter une réponse qui est juridiquement fiable, ce qui nous donnera, entre guillemets, une meilleure remontée sur le national, puisque nous ne sommes pas présents partout. On essaie de faire au mieux en se déplaçant là où on peut, mais c'est vrai que c'est un gros problème. Donc, je ne sais pas si Lionel ou Sylvie, vous aviez des exemples à donner par rapport à ce sujet qui, moi, me semble la base de notre rôle d'élu, mais ça serait bien quand même d'essayer d'aiguiller un petit peu les salariés par rapport à ça.
Bon, ouais. Écoute, moi j'ai envie de te dire, Stéphane, que tu as dit, tu as dit l'essentiel. C'est vrai que pour nous, tout ce qui concerne les risques psychosociaux, c'est une problématique qui nous tient à cœur parce que déjà les structures sont de petites sont des petites structures qu'on n'a pas accès à toutes ces petites structures et que s'il y a des malaises, des pressions, des choses qui se passent mal, c'est bien de les remonter pour que le futur soit meilleur et que voilà, il n'y a pas de raison que ça se passe mal vu que dans certains endroits ça se passe très bien. Donc il ne faut pas avoir peur de revenir vers nous pour dire voilà, il y a ça qui ne va pas. Et si un salarié le dit et que les autres suivent, c'est encore mieux. Donc voyez, soyez solidaires d'une problématique qui existe dans un proxy ou pas, mais s'il en existe une, essayez d'être solidaires et puis surtout de revenir vers nous. L'important, c'est que le travail se passe dans de bonnes conditions et ça ne peut être que plus bénéfique pour la direction parce que dans ces cas-là, vous êtes plus productif, meilleur, etc. Et donc, vous arrivez aux objectifs attendus, etc. Donc voilà, il faut essayer vraiment de marcher et que ça se passe en bonne intelligence et surtout n'ayez pas peur. Comme disait l'autre, la peur n'évite pas le danger.
Exactement. Donc sur ces belles paroles, nous allons passer au sujet, alors que beaucoup n'ont peut-être pas encore pris connaissance, parce que des mails ont été envoyés par la direction sur le projet de fusion entre MCRA, donc tous les centres d'appel pour faire simple, et Protelco, afin de créer la société Free Assistance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, ça demande énormément de travail d'un point de vue harmonisation. Cela aura des conséquences sur notre travail, puisque nous devrons intégrer des fonctionnements différents. Et donc, du coup, il y aura certainement une phase d'apprivi où on devra apprivoiser, entre guillemets, nos méthodologies de travail et mettre en place certaines façons de travailler qui seront différentes. Nous, comme vous le savez, on a une certaine expérience, mais sur celle-ci, on n'en avait aucune. Donc, les élus de la CGT ont, d'un commun accord avec pas tous les membres, mais des membres des organisations autres que la CGT au sein du CSE, ont décidé de faire appel à un cabinet d'expertise pour nous aiguiller et nous éclairer notre lanterne de façon à ne valider des choses ou dire des choses qui pourraient compromettre vos intérêts en tant que salarié. Donc ça, c'est pour nous aussi quelque chose qu'on ne voulait pas, c'est-à-dire se prononcer au nom d'élus sans vraiment maîtriser le sujet. Donc cette expertise a eu lieu. Cette expertise nous a permis de nous ouvrir sur certains sujets que l'on n'avait pas forcément vus et compris par manque d'informations ou par manque de connaissances. Il s'avère que, entre autres, nous a mis en évidence l'organisation du travail qui est totalement différente chez eux par rapport à chez nous, que nous avions peut-être des points de vigilance à avoir sur ces fameux risques psychosociaux et ces conditions de travail. Donc ça enchaîne avec le premier sujet qu'on a fait tout à l'heure. Et donc, du coup, on surveille ça de près. Faut savoir que l'avis qui a été rendu par le CSE sur le sujet de cette fusion est un avis réputé négatif, c'est-à-dire que nous n'étions pas en mesure d'exprimer un avis qui était positif par manque d'informations sur les conséquences globales que pourrait avoir ce projet, même si on nous affirme que tout va bien dans le meilleur des mondes, mais ça, on a l'habitude, puisque c'est toujours le cas. Et donc, du coup, nous, on a mis la réserve que sans les informations que nous avions demandées, eh ben, que l'avis serait réputé négatif, ce qui a été fait lors du rendu de l'avis le 13 février. Et la direction prendra ses responsabilités de poursuivre son opération de fusion. Si elle ne prend pas les réserves qui ont été soulevées par rapport à ce qui a été donné, bah, concrètement, elle prend un risque juridique, entre guillemets, hein, puisque si les conséquences présumées qu'il pourrait y avoir par manque d'informations s'avèrent exactes, ce sera entièrement de sa responsabilité. Donc ça, c'était un point aussi qui était important. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas non plus refaire l'épisode qui dure depuis le mois de décembre, mais ça demande énormément de connaissances juridiques et d'anticipation. Mais sachez que nous essayons au maximum de protéger vos intérêts et on essaie surtout, d'un point de vue global, que ça ne coûte pas sur quelque chose aux salariés de Protelco des conséquences que vous n'avez pas demandées, tout simplement. Je ne sais pas ce que vous en pensez tous les deux, mais je pense que c'était un peu ça notre leitmotiv, c'est qu'on protège au maximum les salariés de Protelco. Sur cette fusion, donc, écoutez, vous aurez les informations au fur et à mesure qu'elles seront dévoilées par la direction ou pas, puisqu'on peut toujours avoir des mystères en termes de communication. Un autre sujet qui n'est pas forcément lié à cette fusion, mais qui, quand même, on peut l'imaginer ou le supposer, au mois de septembre, vous avez déjà vu qu'il y avait eu des projets de resectorisation sur certains free proxy. Ça a été annoncé officiellement donc aux établissements secondaires, donc que sont des free proxy, qu'il était prévu des regroupements de free proxy sur un seul site. Donc, du coup, nous avons eu une nouvelle salve de proxy désignés comme étant en resectorisation. Donc, ça a des incidences sur les personnes forcément qui y travaillent, puisque leur lieu de travail va changer. Ça a des incidences sur les techniciens itinérants rattachés, puisque leurs secteurs vont soit s'agrandir, soit se modifier, c'est-à-dire qu'il y a des redécoupages qui sont effectués et donc du coup ça a demandé quand même une certaine appréciation de que les personnels qui étaient victimes entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, ou qui subissaient les conséquences de cette décision de l'employeur, ne pâtissent pas. Je vous donne un exemple tout bête, hein. Si vous aviez 2 minutes pour aller de chez vous au proxy où vous aviez l'habitude d'aller et que du jour au lendemain vous devez prendre un véhicule que vous n'avez plus pour faire une demi-heure de route, ça a forcément une conséquence sur votre budget et votre temps de travail. Sur votre temps de vie personnelle. Donc forcément, il a fallu apprécier tout ce genre de choses. Et donc, ça nous avait été présenté en janvier. Nous n'avions quasiment aucune information sur ce qui en était réellement. Donc du coup, on avait demandé à ce que ce soit repoussé pour donner de rendre un avis sur le projet. Et donc, ça a été fait fin février. Et sur les éléments que l'on avait pu avoir, ils avaient décidé de faire un vote de l'ensemble des proxys concernés, ce qui a aussi donné malheureusement un avis négatif, puisque des informations nous manquaient sur l'ensemble des proxys. Et sur certains, on avait conclu qu'on était plutôt favorable parce que ça avait été géré, entre guillemets. Ce n'est pas que ça ne posait aucun problème, mais ça avait été géré de façon assez conforme avec les salariés. Et le problème, c'est que n'ayant pas la réponse sur l'ensemble, du coup, ça a donné un avis plutôt négatif. Je ne sais pas si vous aviez un sujet par rapport à ça, un complément d'information à donner.
Alors moi, je peux juste donner un petit complément, c'est que vu que moi je j'interviens sur Paris, donc c'est les proxys sur lesquels je vais le plus régulièrement, c'est les proxys parisiens, la petite couronne, mais il y a longtemps. Ceci étant, sur Paris, il y a effectivement le proxy Paris Voltaire qui est en voie de déménagement. Et on n'a pas eu de grosses, grosses informations, puisqu'ils doivent être répartis, je crois, sur le 19e ou le 20e, et le 15e, mais le 15e pas encore ouvert. Et pour ce qui est des techniciens conseils, pour le moment, ils sont informés, mais il n'y a pas eu de grand-chose d'effectué, à mis à part un technicien qui irait sur le 92 et qui en était content. Pour le reste, bon, on n'a pas de retour. Simplement, ils nous ont bien confirmé que ça se ferait avec l'accord du technicien. Donc, c'est encore à bien vérifier. Et c'est pourquoi moi, je vais faire un petit tour sur Voltaire bientôt, afin de le vérifier. Et là-dessus, effectivement, on a parlé des techniciens rattachés au FreeProxy, dont au départ, il était bien précisé qu'ils travaillaient sur une proximité du proxy. Donc à partir du moment où le proxy déménage, qu'est-ce qui se passe pour ces techniciens? Est-ce qu'ils interviennent sur la même zone qu'avant, ou la zone s'agrandit, ou il y avait des techniciens qui étaient revenus vers moi qui étaient assez inquiets là-dessus. Ce qu'on nous a dit, c'est que ça changeait rien pour eux. Ce que j'ai pu constater quand même, c'est que sur ceux qui ont été déménagés, entre autres, je crois que c'est ceux de Châtelet, ils sont quand même sur deux arrondissements, alors qu'avant, ils étaient sur un. Bon, pour le moment, il n'y a pas eu spécifiquement de soucis, mais d'autres techniciens rattachés au proxy se retrouvent souvent dans cette configuration-là, donc avec des rendez-vous qui sont de plus en plus éloignés de ce qui était prévu au départ. Donc des déplacements plus longs, etc. Donc tout ça, ça a été discuté, donc c'est à suivre de très près. Voilà.
Alors, moi, je suis même moi-même concerné par une restructuration hein, sur de sectorisation sur AGDE. Donc ça s'est fait en bonne intelligence avec entre guillemets une concertation des personnes concernées. Bon, c'est pas un projet qui est totalement terminé entre guillemets, puisqu'il n'est pas encore effectif. Le proxy de AGDE est toujours fonctionnel et en fonctionnement. La seule chose que l'on peut dire, c'est que effectivement ça demande de la concertation, ça demande de la consultation et surtout d'essayer de trouver des compromis par rapport aux nouveaux impératifs opérationnels qui sont imposés à eux. Et je pense que si tout le monde se parle et donne les objections qu'il pourrait y avoir, je pense que ce n'est pas des choses qui sont totalement insurmontables. Après, si on suit une logique économique, ça peut avoir du sens. Mais l'économie ne doit pas se faire au détriment des salariés, c'est-à-dire que des frais ne doivent pas être imputés aux salariés alors que c'était l'employeur qui les absorbait auparavant. L'avantage de AGDE, c'est qu'il y a des lignes de chemin de fer qui sont prises à 70% en charge par l'employeur. Vous avez tout un tas d'éléments qu'on a négociés dans les accords de temps de travail et rémunération qui font que là, ils peuvent être mis en exergue, c'est-à-dire mis en application et qui permettent de compenser le fait d'avoir des trajets plus longs à effectuer, mais qui ne se fassent pas à 100% aux frais des salariés, quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut penser, et que si toutefois vous étiez concerné et que nous n'avions pas eu l'information qu'il y avait des soucis qui n'étaient pas réglés, qui doivent nous remonter de façon à ce qu'on puisse trouver des solutions et que ça ne se fasse pas à votre détriment. Moi, je pense que c'est ce qui est le plus important dans ce genre d'opération, puisque forcément, on est en projet de mise en place des free proxy. Tout n'est pas, entre guillemets, encore totalement arrêté, même si ça va bientôt faire 4 ans de mémoire. On a dû commencer la troisième année, donc on est entre 3 et 4, si je ne me trompe pas, de la création des free proxy. Donc du coup, il y a encore des choses à ajuster et à améliorer par rapport à tout ça. Donc, sur la resectorisation, je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si vous aviez d'autres points qui vous étaient revenus à l'esprit.
Non, pas spécialement. C'est des choses auxquelles il faut qu'on fasse attention, et surtout, il faut qu'on soit informé, parce qu'on ne peut pas forcément aller voir partout comment ça se passe. Donc, il ne faut pas hésiter.
Alors, sur le reste des éléments du CSE qu'il y a eu, donc il y a eu plusieurs informations qui sont d'ordre opérationnel, c'est-à-dire des éléments au niveau de la direction, des annonces de nouveaux outils, de communication, de ce genre de choses. On ne va pas s'épiloguer, on va pas passer trop de temps dessus. Moi, je vous invite à aller consulter les procès-verbaux de compte-rendu de réunion qui seront mis en ligne directement sur notre site du CSE et qui seront consultables. Je pense qu'on ne va pas vous embêter par rapport à ça. Ce n'est pas des choses qui sont intéressantes pour tout le monde et qui permettent de se faire son propre opinion et on vous invite à revenir vers nous si vraiment il y a des choses que vous ne comprenez pas ou que vous aimeriez avoir des précisions par rapport à ça. Je pense que nous allons parler de sujets qui sont plus maintenant au niveau du groupe. C'est à part si vous aviez des compléments d'informations à donner ou des informations spécifiques sur le CSE qui vous étaient pour vous importantes.
Alors, pour tout te dire et pour tout vous dire, je ne les ai pas toutes en mémoire, mais c'est clair qu'il faut aller lire les PV qui vont être... je ne sais pas s'ils ont déjà été émis. Ils ont été votés il n'y a pas longtemps, Stéphane.
Normalement, ça a été mis au fur et à mesure.
Ok, donc il faut vraiment aller lire les PV. Vous avez les différents échanges, les questions à la fin, les réclamations, etc. Et vous avez les réponses de la direction et vous pouvez donc le lire et en prendre connaissance. Parce que nous, on ne peut pas vous raconter via ce podcast. Parce que comme je disais tout à l'heure, vous risquez de mettre fin au podcast avant la fin. Sachant que la dernière réunion du CSE entre nous a dû durer 7 heures, c'est ça ?
Ouais, c'est ça.
Donc voilà.
On a été pris par un sujet très, très sérieux et qui a effectivement été très long à traiter puisque concrètement, ça demandait énormément d'action de la part de la direction et on attend que justement ces effets commencent à porter et qu'ils permettent de... entre guillemets, solutionner les problèmes et ne pas en créer des nouveaux. Donc, est-ce que ça t'intéresse, Sylvie, de parler de notre négociation sur la qualité de vie au travail et l'égalité femmes-hommes qui s'est négociée au niveau du groupe Iliad ?
Alors,
tu étais bien présente, pas tout le temps, je te l'accorde, avec tes obligations.
Exactement, parce que il y a de nombreuses obligations. Comme je ne suis pas très forte en résumé, je te laisse, Stéphane, aborder cette négo comme tu l'as fait pour le reste. Si j'ai un commentaire à faire, mais peut-être je le ferai après ton petit résumé, ça va pas très loin, mais bon.
Alors, on va essayer de resituer un petit peu l'histoire quand même de ce qui s'est passé. Concrètement, nous avons, nous, au niveau de Protelco, un accord de ce même type, c'est-à-dire sur les mêmes sujets où nous travaillons dessus depuis des années et qui est amélioré à chaque renégociation. À savoir que nous avons quand même pas mal de choses déjà dans notre accord. Alors, soit on pourrait toujours avoir mieux, mais un constat a été fait par certaines autres entités du groupe qu'ils n'avaient pas d'accord et qu'ils n'avaient rien. Donc, il avait été décidé, suite à leur demande au niveau du groupe, de réaliser un accord qui serait commun à toutes les entités qui n'en ont pas et de laisser le choix à celles qui en ont déjà un de pouvoir adhérer à cet accord pour bénéficier des éventuelles améliorations qu'il pourrait contenir. Il s'avère qu'après 3-4 réunions de mémoire, nous avons abouti à un accord groupe qui, d'un point de vue des négociateurs CGT, c'est-à-dire de moi, de Sylvie, de Céline, avons constaté que, grosso modo, on avait 2-3 petites choses qui étaient nouvelles, mais que l'ensemble des choses qui étaient dans l'accord, en fait, il était déjà dans le nôtre. Donc, en gros, il apportait pas vraiment grand-chose vis-à-vis de ce que l'on avait demandé. Nous avions fait quelque chose à la hauteur en termes de revendications qui était de l'ordre national et des choses qui se pratiquaient dans les autres groupes de même taille que le nôtre, c'est-à-dire avec des ambitions de reconnaître un petit peu cette égalité et cette qualité de vie au travail, parce que mettre des jolis papiers, une salle de pause, un beau canapé, une console de jeu, si on n'a pas le temps d'y aller pendant sa journée de travail, j'en vois pas trop l'intérêt. Ça fait joli sur les plaquettes quand on présente aux salariés, mais concrètement, ça n'a pas une grande utilité. Donc, si vous voulez, en termes d'égalité salariale, on est plutôt même très bien placé, très bien placé en termes de rémunération. Il n'y a pas de différence notable qui sont faites d'un point de vue poste égal, salaire égal. Ça, c'est quelque chose qui est quand même... On a toujours des très bonnes notes sur les comparaisons qui sont faites et qui sont envoyées d'un point de vue officiel à l'administration française. Nous, ce qui nous embêtait, c'était de ne pas pouvoir avoir des choses complémentaires par rapport au légal, si vous voulez. Donc, parce que le légal, ben, il n'y a pas besoin d'accord. Hein. On applique le code du travail et puis ça s'arrête là. Hein. Donc, nous, on a fait un cahier de revendications qui était quand même assez complet. On a fait énormément de propositions qui pouvaient rentrer dans le cadre d'une entreprise ou d'un groupe qui souhaitait réellement apporter des améliorations sur la qualité de vie au travail et sur l'égalité homme-femme, il s'avère qu'aucune de nos propositions ont été retenues. Donc, comme ça, vous pensez bien que cette négociation prend une tournure qui, d'un point de vue CGT, si certains qui n'ont rien trouvent ça mieux, on peut le comprendre, mais on se pose sincèrement la question. Est-ce qu'il est utile de signer un document qui ne retient aucune de nos revendications et qui, entre guillemets, n'apporte strictement rien au niveau des salariés de Protelco qui, en temps normal, nous représentons? Donc, je vais laisser quand même la parole à Sylvie parce que c'est vrai que ça fait un tableau un peu noir, mais il n'y a vraiment pas de quoi casser trois pattes à un canard sur l'histoire de cette négociation. À toi Sylvie qui était présente.
Oui, moi je suis assez déçue parce qu'en fait, au départ, on nous a présenté cette négo comme quelque chose de voilà qui allait être révolutionnaire et qui allait changer la face d'Iliade au niveau égalité homme-femme, égalité de vie au travail, qui a été rajoutée en cours de route. Et en fait, comme tu disais, c'est du légal. Ils enfoncent un clou. Comment on dit ils enfoncent un clou. Enfin bon, ils nous présentent des choses qui sont qui devraient être acquises, mais il trouve ça bien de le dire, alors c'est bien de le dire et de le marquer, mais j'ai plus d'exemple en tête, mais j'ai plus d'exemple en tête, ça m'énerve. Voilà, il n'y a rien. Il y avait un sujet qui revient souvent, c'est le problème de l'endométriose, par exemple, pour les femmes. Et une nouvelle fois, il ne se passe rien. Pour l'allaitement, ouais. Il ne se passe rien. Après, c'est des pauses.
Non, si mais on prend ce sujet strict, ouais. En fait, ils nous accordent ce que nous, on a déjà dans notre accord. C'est-à-dire, en fait, tu as le droit de t'absenter une journée dans l'année, mais sans être payé.
C'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de... Il n'y a pas d'investissement de l'entreprise à ce niveau-là. Quand il y a un investissement de l'entreprise, c'est on vous paye une journée pour ça, parce qu'on reconnaît la problématique que vous rencontrez. Et on vous la paye, parce que, voilà, en plus... Ils ont quand même les moyens de faire ça, excuse-moi, mais je le pense. Et du coup, là, ils vont dire, OK, on vous donne une journée, on ne vous la paye pas, mais c'est quand même bien, vous pouvez la prendre. Enfin bon, c'est petit, à tous les niveaux, c'est petit. Il y a d'autres trucs qui ne me reviennent pas, il faudrait que je relise l'accord, il aurait fallu que je le relise avant d'en parler, mais franchement, c'est...
Moi, celle que j'ai retenue, c'est l'aménagement... Pour les femmes qui souhaitent tirer leur lait pendant la journée de travail, et à la fin, c'était vraiment un aménagement, c'est-à-dire qu'on a droit à une demi-heure si elles le souhaitent, mais c'est une demi-heure en plus de leur journée de travail, c'est-à-dire que c'est vraiment un aménagement, c'est-à-dire que ce n'est pas une demi-heure payée, c'est en fait une demi-heure en plus sur leur journée qui est dégagée pour le faire, mais elles doivent rattraper cette demi-heure dans la journée. Donc c'est une succession de choses comme ça, anecdotiques, mais qui montrent en fait la non-volonté du groupe de faire plus que ce que en fait, n'importe quelle entreprise est en mesure de faire avec une taille de équivalente et surtout qui te vendent d'avoir autant de profits vis-à-vis de ces comptes. Quoi. Je veux dire, on serait en difficulté comme SFR. À la limite, on pourrait presque le comprendre, mais ce n'est pas le cas. Donc, c'est pour ça que ça nous laisse vraiment pantois sur la finalité de cette négociation.
Ouais. Le discours est joli, mais il n'y a rien qui permet il y a rien derrière, quoi. C'est, voilà, il n'y a rien. Enfin, pas dire rien, mais...
Je serais presque à dire qu'on serait à la limite de la communication. Ça me fait penser à certains politiques.
Moi, tu m'enlèves un peu les mots de la bouche, parce que pour moi, c'est de la pure com. C'est de la pure com. Moi, je connais des entreprises qui sont beaucoup plus en avance là-dessus Et je ne comprends pas qu'une entreprise comme Free, comme Iliad, se targue d'être toujours avant-gardiste surtout, soit tellement arriériste, je ne sais pas comment on peut dire là-dessus.
On est loin d'être disruptif, donc, du coup, c'est ça que tu veux dire?
Ah ouais, le fameux mot, ouais, c'est ça.
Lionel?
Mais dire, ça fait beaucoup de communication, on est dans du marketing, en fait, dans de l'apparence.
C'est ça, de l'affichage.
Oui, c'est ça. C'est exactement, mais c'est vrai que les actes ne suivent pas derrière.
Donc, on va clore peut-être le sujet sur ce non-sujet, à la limite, on pourrait presque dire. Hein. C'est bien pour les entreprises qui n'ont rien, ils auront au moins quelque chose comme base, mais on sort à peine du légal. Donc, du coup, voilà, c'est vraiment, c'est minimum syndical, on dira.
C'est ça.
L'autre négociation que nous avions au niveau groupe, donc le fameux comité d'entreprise européen, il faut savoir que c'est une négociation qui se fait entre les Italiens, les Polonais et les Français, que chaque pays a un nombre de représentants à la négociation et qui, à l'heure actuelle, nous sommes toujours en négociation, consiste à mettre en place un comité d'entreprise au niveau européen avec des moyens, des objectifs et des obligations légales. Donc, alors, sur ce sujet, je suis le seul de la CGT à, entre guillemets, au niveau du groupe, à participer à cette négociation. Je ne vous le cache pas que on a assisté donc à une première réunion, à une deuxième réunion. J'espérais avoir mieux de la deuxième réunion qu'à la première, mais concrètement, les moyens qui sont affiché actuellement pour la mise en place de ce comité d'entreprise européen, frôle le ridicule. C'est-à-dire que, je vous donne qu'un exemple, des personnes qui sont à des centaines de kilomètres, voire des milliers de kilomètres les uns des autres, vont bénéficier de 2 heures de délégation en dehors de leur travail, donc ou pendant leur travail, pour harmoniser par an. Donc, j'imagine bien qu'avec un moyen aussi important, en l'état actuel des négociations, vous pensez bien que les choses vont être parfaitement faites et qu'il y aura énormément d'avancées faites au niveau européen pour comprendre les, entre guillemets, acheminements ou fonctionnements entre entités du groupe. Donc, c'est un exemple parmi d'autres, hein, puisque la négociation est en cours, je ne vais pas non plus... Mais c'est pour vous donner le niveau de la négociation où on se pose la question, sincèrement, pour ce qui me concerne, est-ce que c'est d'une utilité importante qu'on se rende à des réunions et perde du temps, sachant qu'on nous a clairement annoncé que essentiellement, ça sera du légal, c'est-à-dire qu'en gros, il n'y a rien à négocier. Donc, maintenant, on va y aller quand même, parce que la politique de la chaise vide, ça n'a jamais rien rapporté, on est bien d'accord. Au moins, on aura été témoin de la mascarade, mais que concrètement, ce n'est pas au niveau toujours d'un groupe de cette envergure qui se vante d'avoir autant d'abonnés, de bénéfices et de profits réalisés sur l'ensemble de l'Europe. Donc, sincèrement, je n'attends plus grand-chose de ce comité d'entreprise européen et ça risque d'accoucher d'une souris. Donc, voilà un petit peu le point par rapport à ce sujet. C'est quand même assez triste. D'en arriver à des conclusions aussi précoces alors que la réunion ne fait que commencer et que tout un agenda est organisé pour justement essayer d'aboutir à un fonctionnement. Si on n'a pas de moyens, ça ne fonctionnera pas. C'est d'une logique implacable. Donc voilà, donc ça c'était le petit point mécontentement par rapport à ça. Je voulais revenir sur... le sujet qui concerne très spécifiquement sur la fusion, en fait, quand on disait que ça demandait des adaptations entre la fusion, donc on rappelle des centres d'appel et de Protelco, pour essayer d'être le plus clair pour que vous compreniez le mieux, c'est-à-dire que tous les accords qui existaient au sein des centres d'appel et qui leur étaient applicables, comme les rémunérations, les temps de travail, la gestion des emplois, ce genre de choses, s'effacent après une survie de 12 mois, une fois que la fusion sera effective. C'est-à-dire qu'une fois que les salariés des centres d'appel appartiendront à Free Assistance, concrètement, tous leurs anciens accords, à partir des 12 mois, n'existeront plus. Alors, vous pensez bien que ça génère énormément de stress et d'anxiété vis-à-vis de leur façon de travailler. Nous avons découvert énormément de choses intéressantes qui se pratiquent chez eux et qui, du coup, nous donnent des bonnes idées pour essayer de les faire appliquer chez nous. Mais il s'avère qu'au vu de la tendance actuelle, on a plus l'impression qu'on va aller sur du rabotage pur et simple des moyens de représentation du personnel et syndical, puisque deux négociations sont en cours sur ce sujet, dont une qui est déjà terminée, qui est la gestion des emplois et la représentation du personnel. Mais la première déjà n'a pas abouti, donc il n'y a pas eu d'accord. Et donc, du coup, la direction, de façon unilatérale, a décidé de signer une prolongation de leur accord qu'ils avaient signé de façon obscure, donc non signé par la CGT parce que les moyens mis en place ne correspondaient pas aux revendications qui avaient été déposées. Et donc, du coup, cet accord risque de se prolonger chez nous pour eux, mais on ne sera pas concerné. C'est-à-dire que nous avons une GEPP actuelle au niveau de Protelco qui se termine début avril, c'est-à-dire que si nous renégocions pas notre gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels avant le 7 avril, nous n'avons plus rien, c'est-à-dire que uniquement le légal s'appliquera. Donc, quelle est la volonté de la direction pour continuer? Parce que, en gros, pour faire simple, on avait demandé à profiter de la même chose que ce qu'ils avaient par rapport à leur intégration, et il s'est avéré qu'il y avait des points très obscurs qui n'ont jamais été mis sur la table pour comprendre. Nous avions fait une communication à ce sujet, j'espère que vous l'avez tous pu la consulter sur notre site, qui expliquait bien les tenants et les aboutissants. En gros, on signait un accord qui mettait en place un outil, mais on ne connaissait pas le contenu des conséquences de ce qui allait se passer. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple concret, des postes désignés ou reconnus comme étant en transformation par la direction allaient bénéficier du contenu de l'accord. Mais concrètement, on ne connaissait pas les postes. Et bien sûr, ces postes-là nous seraient annoncés qu'une fois que l'accord aura été signé. Donc, c'était le côté absurde de la chose. Il n'y a aucune précipitation qui était importante sur ce sujet, puisque la fusion n'étant toujours pas effective, ça pouvait nous être présenté si éventuellement nous devions avoir des postes en transformation au sein de Protelco. Et pourquoi ne pas la signer? Tout simplement parce qu'on n'avait pas tous les éléments pour pouvoir se prononcer. Donc voilà, donc ne bénéficieront de l'accord existant qu'ils avaient fait au niveau de l'USMCRA que les salariés transférés. Nous ne bénéficierons pas de cet accord. Et dans l'absolu, on a préféré s'abstenir que de signer un chèque en blanc à la direction avec toutes les conséquences qu'il aurait pu y avoir. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des interrogations à formuler par rapport à ça. N'hésitez pas à revenir vers nous, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, Sylvie et Lionel, mais moi, je pense que c'était quand même quelque chose qu'il ne fallait surtout pas signer, quoi.
En fait, signer sans connaître, c'est un peu compliqué. On n'engage pas, c'est pas juste une signature sur un papier, c'est on engage tous les salariés dans un processus sur lequel on n'avait absolument aucune vision, si ce n'est ça va rien changer pour vous. Même si on avait, il faut quand même dire, demandé que les salariés de Protelco bénéficient des mêmes choses que les salariés qui allaient être qui venaient chez nous. on a effectivement jugé utile, du coup, avant de prendre notre décision, de faire appel à un expert, hein, dans la mesure où on n'avait pas suffisamment d'infos, qu'on n'avait pas forcément les compétences pour pouvoir signer ou pas signer cette fameuse GEPP. Donc du coup, on l'a fait, je pense, intelligemment, c'est-à-dire on a fait appel à un expert. L'expert nous a bien dit qu'il n'y avait pas, ça manquait d'informations et qu'il y avait des points qui posaient problème. Et du coup, en connaissance de cause, on s'est abstenu de signer ce document, cette GEPP, pardon.
Lionel, voilà. Est-ce que tu aurais un complément à donner ?
Non, pas de complément spécial à donner, mais effectivement, heureusement qu'il y a eu cette expertise, parce que ça a soulevé quand même beaucoup d'interrogations. Sans cette expertise, effectivement, on aurait peut-être signé. Enfin, je pense pas qu'on aurait signé, mais au moins on sait pourquoi on n'a pas signé, quoi. C'est ça surtout.
Je tenais à soulever quand même et à préciser pour que qu'on soit le plus clair quand même. Dans les organisations syndicales représentatives au niveau de Protelco, les deux principales organisations qui représentent quand même à elles seules quasiment 87% ou quelque chose comme ça, j'ai plus de mémoire le chiffre exact de mémoire, n'ont pas signé. C'est-à-dire que ça voulait quand même dire quelque chose. Il y a qu'une organisation qui a signé le document, et donc du coup la majorité de représentation n'était pas acquise, et donc du coup l'application de ce document n'a pu se faire. Donc c'est pour être honnête, on n'est pas les seuls à ne pas avoir signé. Donc, du coup, là, c'est pour ça qu'une communication commune a été faite. Ce que je voulais revenir aussi sur cette conséquence de la non-signature de cette GEPP, c'est qu'effectivement, ça va nous faire une nouvelle négociation à avoir, puisque, comme je le disais, notre propre accord GEPP se terminant le 7 avril. Donc, du coup, ça nous va nous demander du travail supplémentaire et nous espérons bien pouvoir garantir ce que nous avions déjà négocié depuis des années, puisque nous avons cette GEPP qui s'appelait GPEC auparavant, depuis la création quasiment de Protelco. Et nous souhaitons, nous allons faire tout le nécessaire possible pour essayer d'obtenir les éléments complémentaires qui étaient supérieurs à ce que nous avions sur certains points proposés dans la GEPP, sans les inconvénients de cette variable d'ajustement qui était mise dedans sans qu'on ait vraiment la main dessus de ce qu'il fallait faire. Juste pour la petite histoire, il faut savoir que ça semble être une procédure et un fonctionnement qui soit maintenant mis en place au sein du groupe, qui a quand même une conséquence. Il faut savoir que cette GEPP a la possibilité pour l'entreprise de supprimer par le biais des fameux postes identifiés des salariés. C'est-à-dire que si on prend l'exemple du groupe MCRA, actuellement, grâce à cette GEPP, ils ont pu faire partir de l'entreprise, avant la fusion, quasiment 250 salariés. Donc, c'est des ponts avec des chèques qui sont donnés aux salariés pour quitter le groupe, et pas seulement les transférer dans d'autres entités du groupe. Et donc, c'était un petit peu ce qui nous a mis le haut là, ou du moins la puce à l'oreille, si on veut dire, mais c'est surtout du moins se méfier de la pertinence de signer un tel accord. Parce qu'on sait tous que du volontariat se transforme, avec de la pression et des mauvaises conditions, en échappatoire pour certains salariés. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, pour nous, demande des explications. Et comme on l'a toujours dit au niveau de Protelco, au niveau du suivi qu'on a par rapport à la fédération, on craint énormément qu'au niveau de l'UES Iliade, où nous sommes après avoir eu des années fastes, une progression de réalisation des installations pour la fibre et ainsi de suite, que nous arrivions sur une période où il va falloir, maintenant que le réseau est construit, moins de monde pour le maintenir et l'entretenir. Donc, c'est quelque chose qui, à mon avis, risque d'avoir des répercussions sur l'ensemble du groupe. Donc, on s'est dit, attention, ça peut aussi avoir une incidence chez nous, même si ce n'est pas les velléités annoncées et ce que l'on peut constater actuellement.
Il faut savoir qu'on a quand même souvent l'habitude d'entendre une chose un jour et une autre chose un autre jour et qu'ils peuvent être très changeants. Donc, c'est vrai que un peu de méfiance ou de prudence, on va dire plus exactement, est quand même de mise dans ce genre de choses où ça concerne quand même la vie professionnelle d'un certain nombre de salariés et donc qui a obligatoirement un impact sur leur vie personnelle, etc. Et donc, ça rejoint les risques psychosociaux dont on parlait tout à l'heure et qui est un sujet qui nous tient à cœur.
Donc, nous allons passer sur la partie représentation du personnel. Donc, toujours pareil, pour adapter la réalisation et la prise en compte de post-fusion des représentants du personnel actuel qui sont dans les centres d'appel. Puisque, comme je le disais tout à l'heure, la loi fait que si rien n'est fait, il n'y a plus de représentation du personnel. Nous serons les seuls représentants pour l'ensemble des nouveaux salariés, ce qui, pour nous, nous pose déjà un problème, puisque déjà, on ne connaît pas bien ces salariés, puisqu'on ne connaît pas leur métier. Ils sont placés sur des sites qui sont relativement éloignés des élus que l'on peut avoir. Et puis surtout, c'est une question de temps. Si on n'a pas de moyens supplémentaires pour s'occuper d'eux, on est déjà très occupé avec l'ensemble des besoins de s'occuper des salariés actuels de Protelco. Sylvie ne va pas me dire le contraire, que nous, personnellement, on ne pourra pas. Donc, ça veut dire qu'il y aura une baisse de la prise en compte des salariés si rien n'est fait au niveau de la représentation du personnel. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose, ce sont des sujets qui sont très, très complexes et pas faciles à aborder. Parce que vous me direz que les salariés Protelco, eux, ne voient pas forcément d'inconvénients, parce qu'on leur dit rien ne change, tout sera pareil, il n'y aura aucune modification. Mais je vous rassure, nous, on a déjà vu plein de choses qui risquent de se produire et de se dégrader pour les salariés de Protelco. C'est une certitude. C'est ce genre d'opération.
Déjà, on l'a posé. On a posé la question des postes en doublon.
Si tant est qu'on nous a répondu qu'il n'y en avait pas.
Voilà.
Mais c'est toujours pareil. Rien ne change, tout est beau dans le meilleur des mondes. On est chez les bisounours.
Hein?
C'est vraiment ça, quoi. Je veux dire, c'est une catastrophe. Donc, en fait, pour faire simple, lors de la première réunion, on a répété ce que nous avions déjà dit. La fédération CGT a aussi répété, puisque ça concerne deux sujets, les représentants du personnel pour ce qui concerne les CSE, mais aussi la représentation syndicale qui est organisée et managée par les fédérations de chaque organisation syndicale. Concrètement, on ne veut que pour ce qui concerne les sites qui vont être intégrés à la future Free Assistance, rien ne change jusqu'aux prochaines élections qui auront lieu fin 2027 à Protelco. C'est-à-dire que concrètement, ils ont élu des représentants, ils ont des syndicats qui ont été désignés par rapport à leur représentativité. Pour nous, on ne voit pas pourquoi ça changerait puisque les sites ne vont pas changer, à part si on ne nous a encore pas tout dit. C'est la seule chose qu'on peut se supposer, parce que si leur GEPP sur l'année 2026 décide de supprimer encore un certain nombre de postes, effectivement, il ne va pas rester grand monde. Hein, donc, il n'y aura plus vraiment grand-chose à surveiller, on va dire. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez tous les deux, mais moi, c'est ce que je crains aussi, puisqu'on peut tout imaginer maintenant.
Ah ouais, non, mais free assistance, voilà, c'est un monde... Je ne sais pas où on va. Donc, on ne va pas non plus angoisser l'ensemble de nos auditeurs. Hein. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas. Voilà, on est très vigilants parce que y a des choses qu'on ne maîtrise pas et on ne voit pas trop où ils vont. Et même si on nous dit que rien ne change, ce que je disais tout à l'heure, demain, ils peuvent nous dire le contraire. Donc, voilà, à suivre de très près. Mais effectivement, je me pose les mêmes questions que toi, Stéphane.
Non, non, c'est clair. C'est que pour nous, on fait statu quo, on prolonge leur mandat en restant dans la légalité et dans les possibilités qui nous sont offertes par ce type d'accord qui est en cours de négociation. Mais pour nous, rien ne doit changer par rapport à ce que les salariés ont bénéficié jusqu'à la prochaine, aux prochaines élections qui auront lieu, comme je le disais, fin 2027, quoi. Donc, c'est pour moi quelque chose de primordial, quoi. Le dernier sujet que nous voulions aborder, ou du moins que j'avais mis dans notre super menu du jour, c'est la négociation, donc cette fois-ci au niveau de Iliad, donc de FreeRevo, la fameuse UES Iliad, d'un protocole d'accord préélectoral. Donc concrètement, c'est l'annonce qui est juste avant les futures élections de leurs représentants du personnel. Alors on sait que par habitude et peut-être par nostalgie de certains qui sont partis au réseau, comme on les appelait avant, bah, continuent de nous écouter. Donc, on voulait saisir l'opportunité de les informer parce que visiblement, bah, vous avez autant de difficultés que nous pour avoir de l'information. On n'est pas représenté au niveau de la CGT, au niveau de l'UES, ça c'est une certitude. On a des élus, mais en termes de représentation syndicale, la CGT n'a pas fait le pourcentage avec un problème majeur qui se pose chez eux, bah, c'est que concrètement, très peu de salariés sur les nombreux salariés qui sont ont voté aux dernières élections, ce qui a eu pour conséquence d'élire deux syndicats majoritaires un syndicat majoritaire et un deuxième syndicat qui ramasse le reste des voix qui ont été faites, mais avec une population de 12%. C'est-à-dire que 98% des salariés n'ont pas voté et donc ne sont pas représentés au sein de leur entreprise. Donc, je pense que la vraie majorité, c'est tous ceux qui ne se sont pas exprimés. Et donc, n'ayant pas pu organiser de façon, on va dire, correcte, disons-le, les précédentes élections il y a 4 ans, la CGT, cette année, met tout en œuvre pour obtenir un maximum de salariés qui doivent aller voter. Ça, c'est une certitude. On va essayer de tout mettre en œuvre pour y arriver et surtout de présenter une liste CGT qui sera à la hauteur des, comment dire, de façon, on va dire, correcte, sans trahir des choses confidentielles, qui soit en mesure de pouvoir mettre de la discipline dans l'éventualité que de grosses annonces qui seraient très pénalisantes pour les salariés interviennent sur l'année 2026. Alors, je sais, c'est très flou comme commentaire, mais la loi étant là, on n'a pas le droit de dire des choses. Mais comme je l'ai dit lors des élections de Protelco, puisqu'on se doutait qu'il allait se passer quelque chose au niveau de Protelco, et on est dans le dur puisque la fusion est en cours, je pense que, comme je l'ai toujours dit, en 2017, on était dans le plein boom, on avait dans le groupe des télécoms, donc dans l'ensemble des télécoms, il y avait besoin de 150 000 salariés pour construire un réseau. Ce réseau est quasiment construit. Ça veut dire que les chiffres projetés, c'est 100 000 salariés de moins dans le secteur sur la France. Tout opérateur confondu, je m'entends, hein, pas que chez nous, on n'a pas autant de salariés que ça. Mais ça sous-entend que on aura une part importante, certainement, de salariés qui doivent trouver un autre métier ou une autre entreprise pour travailler. Donc, moi, je pense que là, on arrive dans le dur, qu'il va falloir faire des choix très importants dans les organisations syndicales que vous allez choisir, qui doivent vous représenter au niveau des comités d'entreprise, mais aussi des délégués syndicaux qui vont négocier les conditions de gestion des emplois et des parcours professionnels, parce que là, on est vraiment dans le dur. Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur MCRA tout à l'heure. Ils se sont servis de cette option-là pour faire partir les gens. J'ai bien peur que, comme je l'ai dit, ça soit la même méthodologie qui a fonctionné à MCRA qui soit utilisée dans l'UES Iliad. Donc, je n'ai pas d'éléments qui permettent de vous prouver, entre guillemets, ces sentiments que j'ai. Mais sachez quand même que c'est quelque chose qui risque d'arriver et que c'est vraiment maintenant que ça se joue au niveau de l'UES. Donc moi, je vous dis, tous ceux qui nous écoutent et qui connaissent des gens au niveau de FreeRevo, au niveau de l'UES Iliad, je pense que c'est le moment de venir nous voir, de venir vous manifester. Il y a 60 personnes à trouver pour représenter les salariés de l'UES. Donc, il y a de la place. Et je pense qu'il y a une nécessité urgente de prendre vos destinées en main. Donc, je ne sais pas si vous aviez, vous, les camarades, des choses à rajouter par rapport à ça, mais je pense que c'est aussi important pour l'avenir du groupe de parler de nos camarades, de nos collègues, puisqu'ils travaillent dans le groupe de l'UES, que de nos salariés de Protelco, puisque c'est une action qui peut avoir, nous, Free Proxy, des répercussions, parce que si les gens de ces réseaux sont mal au travail ou n'ont pas des bonnes conditions de travail, ça va se répercuter directement sur nos conditions de travail dans les Free Proxy. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Oui, moi je pense comme toi. Je pense qu'à l'heure où le groupe resserre un peu les liens, enfin resserre les liens, supprime des entités et forme des gros, enfin une plus grosse entité. Je ne sais pas si je suis très claire, mais vous me direz à la fin si mon exemple vous parle. Mais en tout cas, c'est à l'heure où prix il y a de se resserre. Il serait bien que effectivement les OS se resserrent aussi et qu'on fasse bloc, merci, face à une direction qui va être bien. Enfin, c'est-à-dire que dans chaque entité, je pense que de moins en moins nous pourrons faire grand-chose et ça va peut-être un petit peu plus haut que ça va se passer et que je pense qu'il faut qu'on y soit. Et donc, s'il y a des salariés qui ont envie de continuer et de se battre et de faire des choses pour sauver leur emploi ou leurs conditions de travail, franchement, il faut revenir vers nous et effectivement créer quelque chose au niveau de l'US Iliad.
Alors, je ne serai pas de cette trempe-là, comme à mon habitude, au niveau des considérations par rapport à tout ce qui est relation employeur-employé, mais quelque chose me dit que les intérêts du capital, surtout que, rappelez-vous, je vous ai dit que SFR était très mal et que c'est un secret de polichinelle. Des accords sont en cours, en train de négociation avec des banquiers pour savoir qui allait se partager SFR au niveau des trois opérateurs qui vont rester. Je peux vous affirmer que les intérêts du capital, ça n'a rien à voir avec les intérêts des salariés, hein. Ceux qui ont encore des doutes, je pense que pour obtenir ce qu'ils veulent, c'est toujours les salariés la variable d'ajustement. C'est une chose qui est immuable. Donc, à titre de prévention, on va dire, vaut mieux s'armer avec ce qui, malheureusement, n'a pas changé depuis des années. C'est que si vous ne vous impliquez pas dans votre future vie professionnelle, vous la subissez. Et donc, malheureusement, sans représentant qui soit à la hauteur de soutenir vos intérêts, moi, je pense qu'il est quand même dangereux de miser sur les employeurs dans votre avenir. Je pense que Lionel est un petit peu de mon avis.
Oui, complètement. De toute façon, la fusion en est pour preuve. On est dans une stratégie, effectivement, du capital qui vise à optimiser les coûts pour augmenter les profits. Donc, effectivement, ça ne va jamais dans le sens des salariés, forcément. Même si c'est le travail qui enrichit, mais le patron ne le voit pas dans ce sens-là. Il voit le travail comme un coût. Donc forcément, ben, le coût va être optimisé et donc va forcément grignoter sur nos conditions de travail. La stratégie principale étant de la faire grignoter de façon par miette pour qu'on puisse que ça puisse être un peu plus supportable de notre côté. Mais il faut être très vigilant en fait sur le fait que là on quand même là on monte une marche supplémentaire sur le risque de perdre des conditions.
Et je pense que Lionel, tu as dit quelque chose d'important. Un grand penseur de la CGT récemment m'a dit que des miettes multipliées par deux ne ferait pas un repas à la fin de la journée. Donc, on en est par là. C'est-à-dire que là, j'ai un mauvais pressentiment que les prochaines négociations salaires, avec tout ce qui est en train de se passer, risquent de très mal se passer. C'est-à-dire qu'on risque de nous donner deux fois plus de miettes que ce que nous avions la dernière fois.
Exactement.
Je vois que ça t'a fait rigoler, Sylvie.
Oui, oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. T'avais dit qu'il va falloir la replacer, mais là, c'est nickel.
Non, mais on en rigole, mais c'est vrai que c'est relativement stressant puisque nous, on est dans le cœur du réacteur, on voit les choses auxquelles vous n'avez pas forcément accès. Et on se dit qu'on est dans une belle société qui, jusqu'à présent, ronronnait un petit peu avec ses moments moins intéressants et plus intéressants, mais on avait quand même quelque chose qui était relativement... juste dans certains points, pas tous les points. Ça nous donnait à manger tous les mois, ça nous permettait de tout ça. Mais effectivement, quand on voit ce qui se passe chez SFR, quand on voit ce qui s'est déjà passé chez Bouygues, on a de plus en plus l'impression que le côté, avec des gros guillemets, familial qui existait dans notre groupe, tend à se perdre et qu'on ressemble de plus en plus à des grosses sociétés capitalistes où le seul intérêt qui compte, c'est le tableau Excel et combien de profits nous allons partager à l'actionnaire à la fin de l'année, quoi. C'est malheureux, mais on en arrive vraiment là, quoi.
Vraiment là, et plus il s'illustre vraiment dans toutes les statistiques qu'on nous envoie régulièrement, qui sont là, qui sont des statistiques de performance, hein, donc il joue à fond sur les performances. Et avec la fusion, à mon avis, on va passer une marche au-dessus. Hein. À mon avis, ça va être ça. Hein.
Bah, d'autant plus
à
que
nous,
quand on voit
à nous
le...
de défendre notre biftec. Hein.
Ouais, c'est clair, c'est à nous de défendre notre biftec, ouais. Mais tout seul, comme on l'a dit depuis le début, de à chaque fois, c'est tout seul, on va avoir du mal. Donc,
Si les salariés ne s'impliquent pas dans l'histoire.
Si
on est mort, hein, je vous le dis tout de suite.
Ils vont se faire bouffer, enfin, on va se faire, parce qu'on est aussi salarié, on va se faire bouffer tout cru. Hein. D'autant plus que ce que je voulais dire, c'est que la direction va certainement changer, puisqu'il va y avoir plusieurs directions, plusieurs. On fusionne tout, et je pense qu'il y a un état d'esprit, effectivement, qui va changer, même s'il n'était pas. C'était pas non plus la vie est belle, enfin je sais pas, c'était pas merveilleux, mais enfin il y avait quand même de l'humain, il y avait encore des petites choses qui étaient assez agréables. Je crains que petit à petit ça disparaisse complètement, quoi.
Alors, je vais pas aller jusqu'à dire que le côté paternaliste qui était représenté par Serge Conan quand il était encore directeur de Protelco nous manque, parce que c'est pas forcément le sentiment général que pourraient avoir les salariés, mais il y avait quand même une relation de proximité et de vérité que quand il y avait quelque chose à dire, c'était dit, et qu'on ne se cachait pas forcément derrière notre petit doigt pour se le dire.
C'est ça. T'as résumé ce que je voulais dire.
Là, tu nous as coupé court là, parce que c'est vrai que c'est exactement ça. En fait, tu as bien résumé le truc.
Mais voilà, est rentré dans une philosophie de grandes entreprises sans en avoir les avantages.
C'est ça. C'est tout à fait ça. On reste très petit, mais on s'agrandit. On
c'est
grandit.
Ça.
Enfin, là, l'entreprise grandit, mais c'est vrai que le reste reste très petit.
Moi, je pense que le sujet quand même est sérieux et aura des conséquences dans les années qui viennent. Et je pense que s'il n'est pas pris au sérieux par les salariés, donnera des conséquences sur l'ensemble du groupe, quelle que soit l'entité dans laquelle on se trouve.
C'est ça. Et la difficulté première qu'on va avoir, en fait, c'est le fait qu'on soit quand même sur des localisations très espacées partout, un peu divisées partout. Enfin, c'est un peu... divisé, c'est un peu ce qu'ils cherchent, je crois, mais c'est très difficile effectivement d'avoir de faire cohésion quand on est dispersé un peu partout géographiquement. On essaye, nous, d'aller voir à proximité, mais il y a plein d'endroits encore où c'est assez difficile parce qu'on est loin. C'est pour ça qu'avec la fusion, il va falloir encore plus penser à ce côté proximité pour qu'on puisse échanger ce genre d'informations au plus près et surtout éviter le pire dans certains coins reculés qui pourraient partir sur un mal-être, des très mauvaises conditions de travail et qu'on laisse s'installer ça à long terme.
Tu me fais penser, je voulais pas en parler, mais il faut savoir que ce qui démontre un petit peu notre sentiment, c'est que nous avons, à la sortie des élections de 2023, donc en mars 2024, ouvert des négociations pour mettre à jour nos moyens sur les représentations du personnel par rapport à l'effet free proxy, donc ce que vient d'exactement dire Lionel, c'est-à-dire la dispersion des salariés sur toute la France, des petits groupes de 10 personnes avec des problématiques nouvelles que nous n'avions pas auparavant, avec des techniciens qui étaient seuls, soit, mais chez eux, et qui, du coup, cette négociation a bien été ouverte à la demande de la CGT en mars 2024. Nous sommes en mars 2026. Il n'y a toujours pas de clôture de cette négociation. Ça donne le niveau d'implication de la direction sur ce sujet qui, pour nous, en tant que représentants du personnel, est primordial. Nous avons dans cet accord des moyens qui sont alloués en termes de budget sur le fonctionnement et sur les ressources du CSE pour vous proposer des offres et ce genre de choses. Beaucoup de gens nous reviennent vers nous pour nous dire que les moyens sont ridicules comparés à d'autres entreprises de même taille qui connaissent auprès de leurs conjoints ou de leur famille. Faut savoir qu'actuellement, nous avons 0,42% de masse salariale. Dans d'autres moyennes du secteur, c'est 0,80. Ça vous donne vraiment l'intérêt qu'a la direction par rapport à ça. Alors, effectivement, on nous a parlé pendant la négociation de passer à 0,62, mais c'est toujours pas signé, donc personne n'en profite. Nous avons dû couper les offres là en début d'année parce qu'on ne sait pas quel budget nous allons avoir et ce que l'on peut proposer aux salariés sur l'année 2026. C'est des choses qui sont... Vous voyez, mis bout à bout font que là, on est dans un flou tellement artistique, on va dire ça comme ça, qu'on se pose vraiment où va-t-on ? C'est vraiment le mot, c'est on n'a aucune visibilité de ce qui va se passer en 2026.
Ah ben, alors, juste pour revenir aux représentants de proximité, effectivement, moi je pense que c'est quand même, je pense que c'est clair que c'est une volonté de la direction de noyer le poisson, en fait, de laisser traîner les choses, pour que on puisse pas vraiment s'organiser et travailler dans la cohésion quoi de la cohésion de salariés quoi, c'est-à-dire dans nos intérêts aussi à nous quoi en fait on peut pas les porter ces valeurs là même si on a un CSE le CSE finalement pour la direction c'est pas représentatif
puisque, c'est la verrue en fait, dans leurs chaussures.
Voilà, c'est ça, on a un petit caillou dans la chaussure, mais c'est pas bien méchant, quoi. Il faut, je pense, vraiment passer, nous aussi, une marche au-dessus, au niveau de la cohésion et d'essayer d'être le plus mobilisé possible.
Ça passera, moi je pense que ça ne passera que par l'implication des salariés. Je pense que seul, on ne pourra rien faire. Ah oui, c'est ça.
Bon, d'ailleurs, on le voit bien, hein, quand on essaye... de leur dire de un petit peu de faire avancer les choses. Bon, ils parlent, ils sont gentils, hein, mais pas sans rien. Donc,
Alors, j'ai une anecdote, hein, je vais la dire dans le Protelcast, comme ça tout le monde sera bien à l'écoute et comprendra bien. Quand on voit que certains coordinateurs de Free Proxy se permettent, sous prétexte qu'un de leurs conseillers a pu faire une demande légitime d'application d'un accord que nous avions négocié avec la direction, c'est-à-dire quelque chose qui était réglé et négocié et mis d'accord avec la direction, de lui rétorquer qu'il sera pas sanctionné parce qu'il n'a pas le droit, mais qu'il aura une petite pénalité sur son fonctionnement du travail parce qu'il a osé parler aux représentants du personnel. Quand je vois ces genres de mentalités encore possibles en 2026, je me dis que, heureusement, que nous ne sommes pas en guerre.
Oui, et là, moi, j'en reviens aussi à un fait, c'est qu'il ne faut pas oublier le délit d'entrave, quand même, qui est du pénal, hein, et je pense qu'il faut le rappeler de temps en temps, ça fait du bien. Hein. Parce que si ce genre de fonctionnement, quelle que soit la personne, hein, que ce soit un coordinateur ou un responsable, est inadmissible et il ne faut pas laisser passer des choses comme ça. Et je pense que la peur, il faut qu'elle change de camp hein, dans ces cas-là.
À la limite, Lionel, c'est même pas une question d'avoir peur ou de pas peur, c'est qu'à partir du moment qu'une direction se met d'accord avec ses représentants syndicaux sur un fonctionnement, il n'y a plus de discussion à avoir. On applique ce qui a été dessiné. Ça serait quelque chose qui ne serait pas documenté. Au niveau de l'entreprise, je pourrais comprendre, mais là, il y a zéro discussion à avoir. On suit ce qu'il y a décrit, point barre. On leur demande pas de réfléchir sur ce point-là.
Ah oui, non, il n'y a pas d'esprit. C'est clair.
Et c'est pas un cas isolé, hein.
Non, c'est vraiment pas un cas isolé. C'est un exemple là, qui me revient par l'esprit de ce que j'ai vu récemment. Mais c'est en limite hallucinant, quoi. Et donc, du coup, il faut prévenir quand même que tout responsable, à partir du moment où c'est quelque chose qui est écrit dans les accords d'entreprise et validé par l'organisation, les organisations syndicales représentatives et la direction, il n'y a pas de discussion à avoir. On applique point barre à la lettre. C'était juste un petit rappel que je voulais faire parce que je pense qu'effectivement, certains s'imaginent, parce qu'ils sont dans des petits groupes ou dans des secteurs un peu isolés, qu'ils ont le droit de réinterpréter à leur manière ce qu'il y a décrit dans les accords d'entreprise ou le code du travail, par exemple.
Et on en revient toujours aux représentants de proximité, c'est-à-dire qu'effectivement, avec des représentants de proximité, ben, ça peut éviter ce genre de dérapage, ça peut permettre d'avoir des informations assez rapides et ben, d'éviter qu'on marche sur les accords, quoi, comme ça.
C'est un peu ça. Bon, je crois que nos auditeurs commencent à en avoir un peu marre de nous entendre palabrer.
Ah, j'en vois un, il s'est endormi là, Stéphane.
Ça y est, on en a perdu.
Donc du coup, je pense qu'on va leur souhaiter une bonne fin de journée s'ils nous écoutaient pendant la journée, une bonne nuit s'ils s'ennuyaient et qu'ils ne dormaient pas. À part si vous aviez encore des points à rajouter sur les sujets que nous avons abordés, mais je crois que là, on a quand même fait très large pour essayer de rattraper un peu notre retard. Et on espère qu'on sera un petit peu plus assidu si on nous laisse le temps, mais ça risque d'être compliqué au vu des futures actualités qui s'annoncent. Et donc, du coup, pour ce qui me concerne, moi, j'ai pense avoir fait le tour et je vous souhaite une bonne continuation. Merci à vous. Au revoir.
Eh bien, écoute, je pense qu'on a fait effectivement tout le tour des questions et je vais vous souhaiter à tous aussi une belle journée, bonne nuit, bel après-midi, bon courage si vous êtes au boulot, et etc., etc. Bon week-end si vous l'écoutez ce week-end, en espérant qu'il fera beau et que vous serez plutôt dehors à profiter du beau temps. Et puis à très vite. Pour mémoire, Stéphane, nous avons décidé de bloquer une date tous les mois pour l'enregistrement du Protelcast. Donc, s'il n'y a pas de mauvaise surprise entre deux, ben, on devrait se retrouver le mois prochain. À bientôt.
Merci de nous avoir écoutés. Ça fait plaisir de participer. C'est la première fois pour moi. Je voulais faire un petit dicton positif. Peut-être que ça éveillera des consciences. C'est que l'analyse nous éclaire et la volonté nous porte. Voilà, et moi, c'est un peu mon combat quotidien, c'est ça, en fait. Voilà. En tout cas, bon courage pour ceux qui sont en train de bosser, bon repos pour ceux qui ont terminé, et bon début de journée si c'est le matin. Et puis, à très bientôt, j'espère.
Tu bosses chez Free, t'as le sourire au proxy. Mais des fois t'aimerais juste un peu de répit. Les forfaits mobiles, tu en rêves la nuit. Et l'abonné dit, j'ai pas de réseau ici. T'étais tranquille grâce au télétravail. Maintenant c'est terminé, ciao bye bye. Le dimanche t'assure, tu es souvent là. Mais les primes du mois, c'est pas toujours ça. Écoute le Protelcast, pose-toi, prends ton café. On n'est pas des tarés, c'est juste la CGT. Un groupe bien soudé qui a décidé de t'aider. Si t'es en galère, tu peux nous contacter. N'hésite pas, fais-le avant d'être déconnecté. Multitâche, tech, itif, fibré, ADSL. Ton dos fait la gueule, mais ton GPS t'appelle. T'as fait 100 bornes pour des pannes, une vidéo. C'était une box 4G, ça prime presque zéro. Et dans le brouillard à 10h derrière un buisson, y'a peut-être ton CETI qui se croit en mission. Mais t'inquiète pas, c'est vraiment pas pour te piéger, il est juste là pour t'aider à mieux travailler. Écoute le Protelcast, pose-toi, prends ton café. On n'est pas des tarés, c'est juste la CGT. Un groupe bien soudé qui a décidé de t'aider. Et si t'es en galère, tu peux nous contacter. N'hésite pas, fais-le avant d'être déconnecté. Écoute le Protelcast, pose-toi, prends ton café. On n'est pas des tarés, c'est juste la CGT. Un
un groupe bien soudé qui a décidé de t'aider. Et si t'es en galère, tu peux nous contacter. N'hésite pas, fais-le avant d'être déconnecté.